J'ai pas eu besoin de réfléchir trop longtemps pour vous partager quelque chose ce matin. Je vais vous parler de Noël. Jean-Noël, c'est Noël. Pourquoi ? Parce que il y a des choses qui nous attristent quand même. Quand on voit ce qu'on fait de Noël. Quand on voit qu'on essaie de mettre Noël aux oubliettes, quand je vois que des grandes municipalités en France font tout pour enlever tout ce qui concerne Noël. Je disais cette grande ville de Nantes qui a eu pendant des années le fait d'être la ville où on vit le mieux en France, où ils ont décidé de ne plus rien faire pour Noël, mais mettre plein de décorations qui n'ont plus rien à voir. Et je regardais ce reportage et je voyais des grands boucs comme ça. Je me dis, oh, ça rappelle d'autres choses, ces choses-là. Je me dis, oh, pourtant, Noël. Noël, c'est la promesse. Noël, c'est une promesse qui s'est travaillée préparé pendant des siècles et des siècles, Noël. Dieu porte un désir, son désir le plus cher, qu'il porte dans son cœur, c'est de rencontrer l'homme, de rencontrer sa création. Et la Bible, finalement, c'est l'histoire de ce désir. Toute la Bible est l'histoire de ce désir de Dieu de venir rencontrer l'homme. C'est toute l'histoire de la Bible. Rencontrer l'individu pour que l'individu devienne un peuple et que pour que toutes les nations puissent être touchées, visitées. C'est son désir. Et Dieu a mis son désir en route par des promesses, et notamment par une promesse. Mais, toujours un mais, entre la parole donnée, entre le désir qui va devenir une parole dite aux hommes, annoncée aux hommes, entre la parole et l'accomplissement de la parole, il y a un espace-temps entre ce qui sort de la bouche de Dieu et l'accomplissement de cette promesse. Et entre la promesse et l'accomplissement, ça ouvre tout un espace d'épreuve. Un espace de questionnement, un espace d'interrogation, où même ceux qui se sont emparés de la promesse finiront par dire « Mais où est la promesse de son avènement ? Où est la promesse ? Où est la promesse ?» C'est Pierre qui nous dit ça dans sa deuxième épître. « Où est la promesse de son avènement ? Depuis que les pères sont morts, rien n'a changé depuis la création. Où est la promesse ? » Peut-être que quelqu'un s'interroge ce matin, où est la promesse ? Et voyez-vous, frères et sœurs, notre histoire personnelle, notre histoire biblique personnelle se joue entre cet espace-temps, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. En Romains 4, au chapitre 4, verset 20, il nous est parlé d'Abraham, et il nous est dit d'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et nous avons besoin, ce matin encore, comme Abraham, d'être fortifié dans notre foi. Fortifié. Et donner gloire à Dieu, comme vous l'avez si bien fait ce matin. Donner gloire à Dieu. Avec une pleine conviction que ce que Dieu promet, il l'accomplira. Parfaitement. Il l'accomplira. Dieu a fait 7 promesses à Abraham. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que de promesses. Promesse d'une postérité peut remplir de joie Abraham. Mais Abraham a dû attendre qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, pour lui il y a eu 25 ans, et entre la promesse et l'accomplissement, il a essayé d'accomplir la promesse. Entre l'accomplissement d'un fils, la promesse d'un fils, il y a eu Agar, il y a eu Ismaël. Et dans nos vies, entre la promesse et l'accomplissement, il nous arrive bien des bricoles, où on essaie de faire nous-mêmes, où on essaye, où on chute, où on se relève, en attendant, où on se décourage, en attendant cette promesse. Et Abraham va mesurer quand il verra la naissance d'Isaac par Sarah, enfin le fils de la promesse, le fils tant attendu. Abraham mesure l'écart qu'il y a entre la parole dite, la promesse et l'accomplissement de la promesse. Et Abraham va ouvrir finalement cet espace-temps de la foi qu'il nous faut en attendant l'accomplissement de la promesse. Une vie, une marche par la foi. Abraham va la prendre et nous aussi, nous sommes en train de la prendre, cette marche par la foi. Tous les jours, nous sommes remis sur le métier, marcher par la foi. Nous avons la promesse. Mais il faut l'attendre dans la foi, cette promesse, jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Cette promesse, Michée nous dira, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite dans les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Ésaïe va nous dire, voyez, Dieu entretient sa promesse au travers des prophètes. Les années passent, les siècles passent, et le désir de Dieu reprend jour, il reprend jour. Ça va être Ésaïe qui va être éclairé sur cette promesse, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Quelle révélation! Dieu remet sa promesse. Il rend courage par sa promesse de son désir. De son désir. Oh, un enfant nous est né, c'est Bethléem. Un fils nous est donné, c'est Golgotha. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller de puissant. C'est quand il reviendra dans sa gloire. L'accomplissement de la promesse, frères et sœurs. L'accomplissement. Alors, comme on l'a chanté, si bien chanté, on va aller à Jérusalem. La Jérusalem, la ville du grand roi. Alors, je vous invite à faire cette lecture ce matin dans Luc au chapitre 2, au verset 21. Où il nous est dit, le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'ils soient conçus dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela était prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici. » Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un sujet qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Quel texte extraordinaire! Quel texte extraordinaire! Nous sommes là environ à 40 jours après sa naissance. Ils ont quitté Bethléem et ils viennent apporter cet enfant au temple à Jérusalem. Jérusalem. Ils ont fait exactement ce que la Torah disait. Dans ce texte, nous voyons que 5 fois, il nous est dit qu'ils ont fait exactement comme la Torah le disait. Ils se sont soumis à la loi d'Israël. Et ils ont amené cet enfant au temple. Joseph et Marie amènent cet enfant. C'est la première fois que Jésus vient au temple, tout bébé. Et ils sont accueillis par Siméon. Siméon qui attendait. Qu'est-ce qu'il attendait, Siméon ? La promesse. La promesse. 2000 ans de promesse. 2000 ans. Et à ce moment-là, dans le temple à Jérusalem, Siméon tient dans ses bras la promesse, le désir du cœur de Dieu, la promesse. Dieu vient à la rencontre de sa création. Il vient à la rencontre des hommes. 2000 ans d'attente et Siméon va présenter cet enfant. La promesse entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. 2000 ans, frères et sœurs, 2000 ans, et il y a cette naissance, l'attente, il y a eu cet espace-temps, Siméon, celui qui se place à l'écoute, voilà ce que veut dire Siméon, celui qui se place à l'écoute, il est au temple et trois fois, le Saint-Esprit va lui parler. Le Saint-Esprit va lui dire, le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit l'avertit. Il est divinement averti par le Saint-Esprit. Et à un moment donné, poussé par l'Esprit, il se rend au temple. Il se rend au temple. Dans l'écoute, dans le discernement de l'Esprit, il réalise qu'il a dans ses bras le Messie tant attendu d'Israël. Ce Messie béni, tant attendu. Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Une autre version dit, Seigneur, maintenant je suis en paix, tu peux me reprendre. Je suis en paix, parce que j'ai rencontré le Messie. Je suis en paix. Alors maintenant, tu peux me reprendre. À moins que tu aies des œuvres encore préparées pour nous. Ce n'était pas le cas de Siméon. C'était sa révélation. C'était pour lui le moment, il sentait le moment de partir. Ça y est, j'ai vu le Fils de la promesse. J'ai vu le Fils de la promesse. Verset 31, il nous a dit, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples. » C'est un salut préparé, préparé depuis des siècles. Préparé pour Israël, premièrement, et pour toutes les nations. Ce qu'il y a de glorieux, c'est que si nous ne sommes pas juifs, nous sommes constamment aussi concernés en tant que païens. Nous ne sommes jamais oubliés, même s'il est venu premièrement pour les juifs, jamais, jamais les nations sont oubliées. Au contraire, ça doit être le peuple témoin pour les nations. Et la naissance de Jésus, constamment, nous ne sommes jamais oubliés. Il y a eu les bergers où ils ont vu l'armée des anges qui sont venus. Ils ont prévenu, il y a une naissance à Bethléem, allez-y, courez, les bergers qui représentent le peuple juif. Mais il y a eu aussi les mages qui représentent les nations. Et puis, au verset 32, il nous est dit, « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, mon peuple. » Israël va rejeter le Messie. Ça va permettre aux nations d'être visitées, comme notre sœur l'a si bien dit dans Romains ce matin. Les nations vont s'ouvrir à l'Évangile. Et puis il va y avoir un moment où les nations vont être éclairées, elles vont répondre ou pas. Mais après, Israël va revenir. C'est pour ça que Israël va passer en deuxième au verset 32, « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. » Jésus reste la gloire d'Israël, son peuple. Promesse, encouragement pour l'universalité de la terre. Jésus est venu. Jésus est venu. La promesse est là. Promesse d'encouragement. Promesse de salut que Dieu a préparée pour tous les peuples. Et au verset 33, il nous a dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Quelle espérance dans le cœur de Marie, dans le cœur de Joseph, de voir tout ce que Siméon disait de cet enfant. Ça devait être pour eux quelque chose d'extraordinaire dans ce temple, quelque chose d'extraordinaire. Promesse qui se réalise en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et Siméon, verset 34, va les bénir. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, quelque chose qui est plus difficile à entendre. Quelque chose qui est plus difficile. Siméon a encore des choses à dire. Des choses, des paroles difficiles. L'avenir n'est pas rose pour cet enfant, et l'avenir n'est pas rose pour Marie. Comme Abraham, Jésus et Marie vont être en présence de cette promesse et de l'accomplissement de la promesse. Jésus et Marie vont rentrer dans cet espace-temps entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Il va falloir attendre encore 2000 ans. Pour Jésus, ça va être 33 ans où il va témoigner, où il va prêcher le salut, il va prêcher la repentance. Et puis, son message ne va pas être reçu. Il va déranger. Et les paroles de Salomon vont être d'une telle réalité pour Joseph, pour Marie et pour Jésus. Verset 34, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici. » Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les paroles de beaucoup de cœurs soient dévoilées. C'est terrible pour Marie, quand elle est à la croix, et quand elle voit son fils, tout ce que son fils a subi. C'est terrible pour Marie. Elle est dans cet espace-temps entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Siméon a dans ses bras celui qui va provoquer la contradiction, la contestation, la colère. Jésus va être le rocher du salut pour beaucoup, mais il va être aussi la pierre d'achoppement pour beaucoup. Jésus dira lui-même qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Pourtant, Noël, c'est la paix. Mais il n'est pas venu apporter la paix parce qu'il sait très bien qu'il sera un sujet de contestation, de rejet. Il sait très bien qu'il sera une cause de division, même dans les familles, même dans les familles. Il sait qu'il sera un objet de contradiction parce que Jésus nous demandera de prendre position. Position pour lui ou position de rejet. Aujourd'hui, si un musulman se convertit, c'est pas simple. Et je connais même dans des familles qui ne sont pas musulmans, mais qui ont une origine entre guillemets chrétienne. Et j'ai vu des jeunes qui étaient en souffrance parce qu'ils s'étaient convertis. Jésus, Marie sont dans cet accomplissement, dans cette attente de l'accomplissement. Et je crois que tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, marchant dans les pas du Seigneur, nous sommes aussi chacun, pour notre part, des signes de contestation quand nous partageons le message de l'Évangile. Nous sommes sujets à contestation. Nous sommes contestés. Et l'Évangile est de plus en plus contesté dans notre beau pays de France. La parole de Siméon, frères et sœurs, est encore tellement vivante aujourd'hui, tellement vivante, tellement actuelle. Ces paroles sont tellement vraies. En Hébreu, chapitre 12, verset 3, il nous est dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » C'était Jésus dans son espace-temps de 33 ans, où il a subi une telle opposition de la part des pécheurs, jusqu'à la crucifixion. On considère combien on l'a traité pour que nous n'y allons pas nous-mêmes nous décourager. Dans Actes 28, 22, il nous est dit, mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Et combien l'Évangile, aujourd'hui, rencontre de l'opposition dans toutes les nations. Porte ouverte est là pour nous le montrer, pour nous le rappeler. Oh, frères et sœurs, nous sommes dans cet espace-temps. Les paroles de Siméon sont tellement vraies pour nous aujourd'hui. Il a prévenu Marie. Il nous prévient aujourd'hui encore. Ça ne sera pas facile de porter sa croix, de porter l'opprobre de Christ. Je discutais avec une jeune fille, je suis en préparation de baptême avec cette jeune fille de 17 ans, et on a eu un temps cette semaine, et elle me disait, tu sais, j'ai pris position, mais je m'aperçois que mes amis me lâchent. Et on a eu un bon moment de partage là-dessus. Parole de Siméon. Et au-delà de Siméon, de l'Esprit de Dieu qui a inspiré Siméon. Et cette jeune, essaie de l'encourager, qu'elle tienne bon. Oh, frères et sœurs, dans son amour, comme Dieu, comme Siméon a béni Marie et le petit enfant, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Hein, comme Siméon a béni Marie. Et mettre cette paix de Noël, cette paix de Noël dans nos vies quotidiennes. Vivre cette paix de Noël au quotidien. Pas seulement en décembre, mais cette paix de Noël. Cette paix qui peut être même surnaturelle à certains moments difficiles de nos vies. Il veut nous la faire vivre, il veut nous la faire vivre. Promesse. Nous ne sommes plus, frères et sœurs, dans la première partie des 2000 ans de la première promesse de sa première venue. Aujourd'hui, nous sommes dans cet espace-temps de la seconde venue du Messie, dans cette promesse de la seconde venue. Nous sommes dans le temps de l'Avent, deuxième dimanche de l'Avent. Il y a aujourd'hui plein d'enfants qui attendent la promesse du 25 décembre et la promesse des cadeaux. On est dans ce deuxième dimanche de l'Avent, comme il leur tarde que le troisième soit arrivé pour qu'on arrive au quatrième et que le soir de Noël, on ait les cadeaux. C'est l'Avent, mais nous sommes dans une autre plus grande promesse encore, frères et sœurs. Nous sommes dans cette promesse de l'Avent, du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Abraham, comme Siméon, comme Marie qui attendait cette première venue, et au moment où l'enfant était là, c'est des dizaines et des dizaines de prophéties qui se sont accomplies dans cet enfant qu'il tenait dans les bras. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette attente où des dizaines et des dizaines de prophéties vont s'accomplir de la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes, malgré tout, quand même, entre promesse et accomplissement, avec notre histoire qui est en train de s'écrire. C'est notre histoire éternelle qui est en train de s'écrire chaque jour jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Le livre des actes n'est pas encore fini d'écrire. Chaque jour, le livre des actes s'écrit. Et il s'écrit aujourd'hui avec nos vies. Ce n'est pas dans l'éternité que nous préparerons l'éternité. Chaque jour qui passe sur cette terre, nous préparons notre éternité. Et Jésus est en train de préparer l'Église à son retour. Il la sanctifie, il la purifie. Nous préparons ici-bas notre éternité. Et un jour, il y aura cette promesse glorieuse qui aura son accomplissement. Nous sommes dans ce temps d'attente, frères et sœurs. Ce temps d'attente, ce temps d'espoir, ce temps d'épreuve encore. Comment écrivons-nous notre histoire au quotidien? Comment l'écrivons-nous? Pierre nous dira dans sa deuxième épître au chapitre 3, versets 13 et 14, il nous dit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés en lui sans tache et irréprochables dans la paix. Et Habacuc nous dit dans chapitre 2, verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il en connaît la date. Elle est déjà fixée. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Attendez-la. Et elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Oh, frères et sœurs, oui, dans ce temps d'attente, il y a des épreuves, il y a bien des larmes, mais il y a aussi, pour l'enfant de Dieu, une telle espérance. Et le Seigneur veut nous encourager sa promesse s'accomplira. Restons fidèles, nous la vivrons pleinement, nous la vivrons. Dieu tient ses promesses. Nous sommes dans le deuxième de l'Avent. Il nous est dit dans ce chant, si cette promesse, si elle dort, il faut la réveiller. Des fois, dans nos moments d'épreuve, on a tendance à détourner nos yeux de la promesse, par lassitude des fois, par découragement. Des fois, nous avons besoin de réveiller les promesses de Dieu, de les réveiller parce qu'elles sont nôtres, parce que nous les vivrons. Alors, fêtons Noël, fêtons le vrai Noël. Quand j'entends tout ce qui se passe et cette volonté de vouloir éteindre Noël, je me dis que aujourd'hui, si Jésus devait envoyer, imaginons que le 25 décembre, Jésus décide d'envoyer une lettre à chaque foyer dans le monde. Peut-être qu'il écrirait quelque chose comme ceci. Chers amis, vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande célébration en mon honneur. Et je pense que cette année encore, cette célébration aura lieu. Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux. Il y a plein de publicités à la radio, dans les magazines. Et tout cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire approche. C'est bien de savoir qu'au moins une fois par an, certaines personnes pensent à moi. Pourtant, je remarque qu'au début, les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'avais fait pour eux. Plus le temps passe, et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration. Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser et ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête. Je me souviens, l'année dernière, il y avait un grand banquet en mon honneur. La table de la salle à manger était remplie de mets délicieux, de fruits, de chocolat. La décoration était superbe et il y avait plein de cadeaux emballés. Mais vous savez quoi ? Je n'étais pas invité. J'étais en théorie l'invité d'honneur, mais personne ne se rappelait de moi. La fête était en mon honneur, mais quand le jour est arrivé, on m'a laissé dehors. Et ils m'ont claqué la porte au nez. Et moi, je voulais être avec eux simplement pour partager leur table. En réalité, je n'étais pas surpris, car depuis des années, toutes les portes se referment derrière moi de plus en plus. Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé. Tout le monde buvait, certains même étaient ivres. Ils se faisaient des farces, riaient à propos de tout. Ils passaient, semble-t-il, un bon moment. Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une grande robe rouge et il riait sans arrêt. Ho, 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 ho! Il s'est assis sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, criant « Père Noël, Père Noël !» comme si cette fête était en son honneur. À minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser. J'ai ouvert mes bras et j'ai attendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras et vous savez quoi ? Personne n'est venu à moi. Soudain, ils se sont mis à échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, avec une grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai regardé pour voir si quelqu'un ou peut-être quelque chose restait pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait des cadeaux et que vous n'en receviez aucun? J'ai enfin compris que je n'étais pas désiré à cette soirée, et je suis parti silencieusement. Et je crois que tous les ans, ça empire. Les gens se rappellent seulement ce qu'ils ont bu, ce qu'ils ont mangé, des cadeaux qu'ils ont reçus, et plus personne ne pense à moi. J'aurais voulu, pour la fête de Noël cette année, que vous me laissiez entrer dans votre vie. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a 2000 ans de cela, je suis venu dans le monde dans le but de donner ma vie pour vous sauver. Aujourd'hui, je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur. Nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à leur fête l'année passée. Je vais cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. En guise de réponse positive à mon invitation, dites-le au plus grand nombre d'amis que vous connaissez et je vous serai éternellement reconnaissant. Je vous aime très fort, Jésus. Frères et sœurs, ne nous décourageons pas. Nous sommes dans cet espace-temps. Soutenons-nous les uns les autres jusqu'à l'avènement de notre Seigneur dans la gloire. Que son nom soit béni. Père, merci. C'est le projet de ton cœur, venir nous rencontrer, Seigneur. Oui, depuis ta promesse, Seigneur, jusqu'à l'accomplissement, il y a notre vie où tu es venu nous rencontrer. Seigneur, aide-nous à bien la vivre, à bien la partager, parce que ton avènement est proche, où nous serons pour toujours avec toi. Seigneur, nous voulons fêter Noël, mais le vrai Noël, et te rendre honneur, Seigneur, et que ton nom soit encore glorifié au travers de nos vies, et que ton nom soit encore connu autour de nous, Seigneur. Amen. Amen.